19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir chers amis auditeurs, merci de nous suivre. Vous le savez, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est un plaisir. Vous n'hésitez pas, surtout un seul numéro standard, 01 53 48 3000. Les informés, vous le savez, hein, comme d'habitude, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Et jusqu'à 20h, nous commentons, analysons et décryptons l'actualité. Au menu ce soir, on vous a concocté un certain nombre de choses avec 4 débatteurs, une débattrice aussi, qui viendront confronter leur point de vue sur 3 sujets qui ont secoué la journée, chers amis auditeurs. La marche contre l'antisémitisme qui fait débat, notamment, vous le savez, parce que Jean-Luc Mélenchon, lui, a émis son veto. Il veut surtout pas y aller, mais surtout, il explique les raisons pour lesquelles il ne souhaite pas y aller. Ensuite, vous savez quoi ? On parlera de Pascal Pro. Pascal Pro qui dit que la manifestation pour la République et contre l'antisémitisme sera un marqueur pour savoir de quel côté chacun se trouve. Mais Pascal Pro, on joue à quoi là ? C'est-à-dire que si je me range pas là, j'appartiens pas au club ? Et si je suis pas dans ce club, qu'est-ce qui se passe alors ? Pascal Pro, j'ai envie de lui poser la question, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on va me châtier ou je sais pas, bon, bref, ça mérite une clochette tout ça les amis. Hein. Bref, Pascal Pro, vaut mieux rester journaliste je pense.
Faut rester pro,
voilà, exactement. La politique aux politiciens. Le journalisme aux médias. Allez, clochette. C'est fini, la NUPES est terminée. Ça, c'est Fabien Roussel, c'est sa déclaration. Il s'en prend une nouvelle fois, Jean-Luc Mélenchon. Il prend des coups, Jean-Luc Mélenchon. Mais il en donne aussi, clochette. Ça fait sourire Sabrina Nourri. Voilà, la mélenchoniste qui est parmi nous. Elle kiffe, elle. Hein. Elle adore, hein, vous savez. Hein. Quand ça cogne, elle adore. Elle kiffe. Dès que ça cogne, elle dégaine. Vous allez voir, hein, ce soir, peut-être qu'elle va cogner, hein, j'en sais rien. On parlera aussi, vous savez quoi, de tous ces sujets, y compris avec vous, chers amis auditeurs, au 01 53 48 3000. Parce que vous avez envie de débattre, ça me fait plaisir et c'est très important. Vous aussi, vous avez envie de livrer votre point de vue. On parlera aussi de cette guerre en Israël, sur la bande de Gaza, le conflit israélo-palestine. On en parlera aussi. On en parlera parce que, vous savez quoi ? Il y a une grande inquiétude. C'est quoi ? C'est cette fameuse aide humanitaire. On en parlera tout à l'heure avec notamment tous ces pays et puis l'ONU qui insistent sur le fait de parler d'un cessez-le-feu. Arrêtez Sabrina Nourri de me déconcentrer. Et puis surtout, elle me montre Dominique de Villepin.
Ouais. Elle est en fait
elle est toute contente.
Non, elle on est a raté un super
elle président. Elle est avec un grand beau gosse. Ouais. Et Lana, elle affiche la photo et tout, elle est là, elle se dit, ouais, regarde, ouais, je suis avec Dominique, moi.
Il faut l'écouter.
Une mélenchoniste, faut m'expliquer, non, elle mérite une clochette. Une mélenchoniste qui se met à côté d'un aristo, non. Dominique de Villepin.
Alors moi je prends la défense de Sabrina.
Moi aussi. Ah,
il faut savoir reconnaître les qualités de Dominique de Villepin.
En oui. fait, il faut savoir reconnaître les qualités.
Qu'on soit de gauche ou de droite, on a tous été fiers d'être français au moment où il plaidait à l'ONU.
Oui. Il a été celui qui a dit non.
Mais qui aime bien châtie bien, j'aime bien moi Sabrina. J'aime bien la taquiner.
Non, mais bien sûr. Moi je me suis mis à l'autre bout de la table comme ça. Elle peut pas me taper.
C'est ça, non, Sabrina qui aime bien châtie bien.
Absolument.
On est d'accord.
Ah oui.
Bon bah ouais, écoutez. Allez, c'est parti, c'est tout de suite maintenant. Et surtout un seul numéro, 01 53 48 3000. Vous
Les informés. Le face-à-face.
Vous avez entendu leur voix, ils se sont emparés du micro avant même que je leur ouvre le micro. Vous vous rendez compte, ils sont bavards ces jeunes gens. Abdeslam Itage qui représente Europe Écologie Les Verts sur le département du 95. Bonjour, bonsoir.
Bonsoir Adil et bonsoir aux auditeurs.
Sabrina Nourri qui représente
la diplomatie féministe.
Oui, elle est présidente fondatrice de la diplomatie féministe. Ben, ça va, on peut dire aussi...
On peut dire LFI. Aussi, très très grande sympathisante LFI, évidemment.
Du cercle de Mélenchon, tout ça, exactement, ouais. normal. Un journaliste, le grand journaliste Jérôme Bonnet.
Bonsoir Adil,
comment
merci beaucoup. Ben oui, c'est effectivement en représentant cette corporation que j'ai eu la langue un peu trop pendue.
Ouais, c'est ça. Rudy Kazi qui est coincé, je ne sais où. Rudy qui est un élu de Saint-Germain, les Arpajons, qui sera là dans une poignée de minutes. Voilà. Je lance le sujet, vous savez quoi ? Je veux juste accueillir l'autre fille qui nous appelle du 94, si vous voulez bien. Très important d'ouvrir le micro 01 53 48 3000. L'autre fille, bonjour, bonsoir.
Oui, allô, bonsoir.
Bienvenue, mon cher l'autre fille, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Alors moi, honnêtement, je souhaiterais parler de ce qui se passe un peu dans le monde au niveau de la Palestine.
Oui.
Voilà. Donc c'est un sujet que, sur lequel tout le monde parle.
Oui.
Et puis c'est quelque chose en fait qui nous touche aujourd'hui. Oui. Pas mal de morts civiles, enfants surtout, et beaucoup de femmes, beaucoup de. Donc ça c'est un sujet sur lequel je voulais parler en fait.
Allez-y, je vous en prie, l'autre fille, allez-y. Et ouais, c'est bien aussi, livrer votre point de vue, mais c'est bien aussi d'échanger avec nos débatteurs.
Oui, ok. En fait, moi, mon point de vue, déjà, c'est il y a beaucoup de choses que je comprends pas. On m'a toujours parlé depuis que je suis petit que le Mossad, soi-disant, entre parenthèses, était un des services secrets les plus forts au monde, que l'armée israélienne faisait partie des plus grandes armées au monde. Ce que je comprends pas aujourd'hui, comment on peut bombarder des civils comme ça devant le monde entier et on laisse ça faire. C'est-à-dire que quand on est une grande armée ou on est un grand service secret, normalement on doit avoir des frappes ciblées, on doit intervenir sur terre avec une méthode spécifique, avec du professionnalisme. Mais là en fait c'est du massacre pur et sans pitié en fait. On bombarde des civils et on se venge sur des civils, et ça j'arrive pas à comprendre que le monde entier en fait voit tout ça et puis n'intervienne pas, ou on n'intervient que avec des mots, ou que avec de la diplomatie, ou que à un moment donné il faut que ça cesse en fait. Et ce que je comprends pas aussi, c'est aussi le positionnement de la France aussi à ce sujet-là, vu le mélange qu'on a culturel ici en France. On est un peu on a le savoir-vivre ensemble, etc. Et le fait d'être prendre parti, ça c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre.
Il y a beaucoup de beaucoup
de choses, énormément de contenu évidemment, mais c'est bien. Merci l'autre fille pour votre intervention. Messieurs, madame, vous voulez réagir justement à ce
que
dit l'autre fille?
Oui, je peux. Sur comment on peut en arriver là, c'est l'engrenage de la haine en fait, hein. La haine qui appelle la haine, et puis œil pour œil, dent pour dent, et puis ça monte, et ça fait des décennies que ça monte, et donc on en arrive à un point absolument abominable aujourd'hui. Je suis bien sûr d'accord sur le fait qu'il est impensable pour une armée régulière de faire pleuvoir, en une semaine, ils ont fait tomber autant de bombes sur la bande de Gaza, qui est donc très petite, que l'armée américaine sur l'Afghanistan en un an. En moyenne, hein. Donc c'est pour dire à quel point. Donc évidemment, c'est dramatique d'en arriver là. Faut reconnaître aussi que c'est très compliqué. La guerre de guérilla affrontée pour une armée régulière, hein. Les Américains ont perdu au Vietnam pour cette raison, par exemple. Mais la solution ne peut évidemment pas être de répondre à une tragédie, à une atrocité, par une autre atrocité, parce qu'on y perd son âme. Et à mon avis, effectivement, Israël est malheureusement en train d'y perdre son âme. Après, je crois que c'est à peu près. Je vais peut-être laisser mes collègues
Sabrina
parler un peu.
Moi, j'ai juste quelques mots à dire pour rebondir à ce que dit l'auditeur. C'est qu'aujourd'hui, on assiste à un gouvernement d'extrême droite qui est complètement en déchéance, c'est-à-dire qu'il est en train de perdre sa guerre, entre guillemets, puisqu'il est en guerre contre le Hamas, mais il est en train véritablement de perdre aussi au niveau de l'opinion publique, parce qu'il faut écouter ce qui se passe dans le monde, il faut écouter, il n'y a pas qu'en France, il y a aussi les autres pays du monde qui pèsent aujourd'hui qui donnent leurs avis. Maintenant, ce qu'il faut, c'est un cessez-le-feu et immédiat. Et je rejoins ce qu'il dit sur la voix de la France. Aujourd'hui, ce n'est pas assez audible. Il faut. Il parle de trêve humanitaire, mais qu'est-ce que ça veut dire une trêve humanitaire? Nous demandons un cessez-le-feu immédiat, pour ensuite enclencher les négociations pour la libération des otages, pour acheminer toute l'aide humanitaire que la bande de Gaza a besoin. Je rappelle quand même solennellement, et ça me déchire le cœur en tant que présidente de l'association Diplomatie Féministe de le dire, nous sommes à plus de 10 000 morts aujourd'hui sur la bande de Gaza, dont 40% sont des enfants.
Je sais que vous multipliez les rencontres justement
absolument,
dans ce sens.
Absolument, je multiplie les rencontres avec les ambassadrices pour parler de la diplomatie en général, et surtout la diplomatie féministe, parce que les voix féminines sont extrêmement,
la diplomatie parallèle,
sont extrêmement importantes dans la gestion des conflits notamment. Maintenant, ce qui est sûr, donc nous demandons, en tout cas l'association plaide pour un cessez-le-feu immédiat. Ensuite, bien sûr, le reste s'achemine pour ensuite arriver à une solution à deux États. Ce que je le dis, et je le dis vraiment avec, ça me déchire, mais aujourd'hui, le gouvernement israélien n'est pas dans cette optique, il faut le comprendre, n'est pas dans une optique d'une issue politique, parce que aujourd'hui, ce qu'il va sauver les Gazaouis, ce qu'il va sauver la région entière, c'est une issue politique. On n'a pas de stratégie militaire sans une issue politique. Il n'y a aucune issue politique. Il souhaite récupérer la bande de Gaza et évacuer, parce que là, on assiste à un nettoyage ethnique, et je pèse mes mots, c'est bien ce qu'il est en train de se passer.
La question
Gaza,
que beaucoup se
c'est
posent,
un
c'est
nettoyage ethnique.
Est-ce que M. Netanyahou n'est pas en train de vouloir récupérer toute la bande de Gaza?
On la assiste à un nettoyage
ethnique.
C'est un nettoyage ethnique. On assiste aussi à une colonisation extrêmement forte et de plus en plus violente
et armée
au niveau de la Cisjordanie. C'est extrêmement dangereux de peut-être ouvrir un deuxième front et peut-être un troisième front sur le nord. Bref, là, je pense que nous allons vraiment à la catastrophe, et j'insiste sur la voie de la diplomatie française qui doit retrouver le sens de l'enjeu, des priorités, et c'est pour ça que je parle de Dominique de Villepin qui, de média en média, assure cette position qu'il a toujours eue, et depuis son discours à l'ONU qui était grandiose. Aujourd'hui, il affirme qu'il faut un cessez-le-feu et qu'Israël est en train de perdre énormément dans ce qu'ils sont en train de faire.
Mais en théorie, la position de la France ne devrait pas avoir changé. Le camp de la France, ça a toujours été la paix. En principe, elle doit toujours œuvrer pour la paix.
Mais quand vous voyez la présidente de l'Assemblée nationale qui déclare un soutien inconditionnel,
inconditionnel,
je suis désolée, ce n'est pas un langage de paix.
Abdeslam Itache.
Non, mais aujourd'hui,
j'ai la direction les auditeurs.
La diplomatie française bat de l'aile. On a Emmanuel Macron qui est parti se vautrer là-bas dans les bras de Bibi, qui a complètement décrédibilisé la diplomatie française.
Vous l'avez entendu dire, merci Bibi.
Et aujourd'hui, on en est là. Ça veut dire que aujourd'hui, Emmanuel Macron parle d'égalité entre un Palestinien et un Français, d'égalité entre un Français et un Israélien. Il est inaudible. On l'entend plus. Il parle de cessez-le-feu. On ne l'entend plus. C'est fini. C'est fini tout ça. Et moi, je regrette cette époque du général de Gaulle, l'époque de Jacques Chirac. Jacques Chirac qui avait une vraie politique pro-arabe.
Mais de Gaulle à Chirac, c'est la même politique.
Oui, exactement.
Intérieur, ça change, mais à l'extérieur, la France a la même politique. Oui. Jusqu'à Nicolas Sarkozy.
Jusqu'à Nicolas Sarkozy qui nous a rentrés dans l'OTAN. Oui. On ne va pas refaire toute l'histoire de Nicolas Sarkozy, mais aujourd'hui, on en est là. On a un vrai drame humain avec l'ONU qui n'est plus respecté, et on le voit bien, depuis que les Américains sont partis sans la résolution de l'ONU envahir l'Irak, et vous le voyez bien. D'ailleurs, je tenais juste à apporter une précision. Aujourd'hui, l'entité sioniste occupe une partie du Liban et une partie de la Syrie. D'accord ? Transposons les choses. Quand Saddam Hussein a envahi le Koweït, le monde s'est indigné et on l'a frappé tout de suite. Mais là, on fait quoi pour le nord du Liban, enfin le sud Liban, pardon, le sud Liban et la partie syrienne kurde qui est actuellement occupée par l'entité sioniste. Vous voyez, et là, pour le coup, personne n'en parle.
Allez, je vais accueillir juste Elias de Paris. Bonjour Elias, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bien dans votre cabinet, s'il vous plaît, parlez bien dans votre téléphone, parce qu'on vous entend vraiment au loin, si vous voulez bien, Elias.
D'accord. Est-ce que vous m'entendez là?
Ouais, vraiment bien. Il faut qu'on vous entende mieux que ça, s'il vous plaît.
Enlevez les haut-parleurs.
Ouais, voilà, c'est mieux, parce que sinon, moi, je vous dis ça pourquoi, à tous les amis auditeurs. C'est pour mieux partager ce qui se dit à l'antenne, parce qu'on est en direct. Hein. Sinon, vous savez quoi, on capte pas. Hein. C'est horrible. Allez-y.
J'ai pas d'haut-parleur, j'ai rien.
C'est mieux.
Ok, donc bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Donc excusez-moi pour je trouve pas les vocabulaires, dommage. Donc j'essaie toujours je voulais toujours intervenir, mais je trouve pas le mot. Je laisse les gens qui savent parler mieux que moi. Mais là aujourd'hui, je suis outré. Je vous jure, j'ai eu la nationalité française. J'étais naturalisé il y a pas longtemps. Et aujourd'hui, je vous jure, en entendant les politiciens parler, ces gens-là, comment ils parlent, pas tous, bien sûr, j'ai envie d'une seule chose, de rendre ma carte, et je dis merci à la France, mais je reprendrai cette carte que quand la France reprend ses valeurs. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont trahi les valeurs de la France qu'on aime. ils ont trahi la...
Ne mélangeons pas tout, peut-être, hein, c'est, j'ai envie de dire, hein, vraiment.
Mais, non, mais on a perdu cette position d'équilibre qui était quand même farce. Voilà, c'est tout.
Ce que je veux dire, qu'aujourd'hui, ils ont vraiment trahi la France, trahi les valeurs de la France, ces politiciens qui parlent.
Je crois pas, Elias, quand vous dites ça, faut pas englober tout le monde, hein, faut pas généraliser, attention.
Non,
il y a Jérôme Bonnet qui s'apprêtait à vous répondre. Jérôme Bonnet, attendez, laissez-le finir, il n'a pas été jusqu'au bout de son propos. Jérôme Bonnet. Elias, s'il vous plaît, laissez-le finir, il va vous répondre. Jérôme Bonnet. Non, laisse-le, c'est pas grave, c'est pas grave, moi j'aime bien.
Je voulais juste dire que, en effet, il y a une partie de notre politique étrangère qui était vraiment bien, qui est partie, qui reviendra peut-être demain. Les choses sont pas irréversibles, mais surtout, faut se souvenir que la France, c'est le troisième pays où il y a le plus de juifs au monde, après les États-Unis et Israël. C'est le premier pays où il y a le plus de musulmans en Europe. Et ça, c'est notre honneur. C'est l'honneur de la France que d'avoir une très grande communauté juive, une très grande communauté musulmane. Et en fait, je pense que il faut que nous, le peuple, en fait, on continue à montrer la voie, quelles que soient effectivement les positions prises par nos dirigeants.
Voilà, Elias, merci en tout cas, mais faut pas, évidemment, pour ça, vous n'allez pas, évidemment, sombrer.
Non, je généralise pas. Oui. Non. Mais franchement, voilà, sauvez la France. Il y a des bons gens, il y a des bons. Et voilà.
Mais la France, c'est toi, c'est moi, c'est nous.
C'est ça.
Exactement.
Voilà, c'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut dire, Elias. C'est chacun d'entre nous. C'est ça, la France. Merci, Elias, d'avoir soumis votre témoignage. 01 53 48 3000. Vous nous appelez partout en France. On vous écoute, on vous entend. Vous commentez l'actualité avec nous. Redi, quasi bonsoir. Et avant, je lance la pause après. Comment ça va?
Très bien.
Quelques retards.
Un petit peu.
Les lus de Saint-Germain, les Arpajons, effectivement, connaissent quelques retards. Ça arrive aussi.
Ça, de temps en temps.
Allez, à tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous, pause et on se retrouve.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
19h23-24 même précisément maintenant, avec Rudy Kazi, avec Jérôme Bonnet, Sabrina Nouri et enfin Abdeslam Itache, les auditeurs qui défilent au 01 53 48 3000. N'hésitez pas, le standard Solal vous accueille avec grand plaisir au 01 53 48 3000. Rudy Kazi, sur la situation qui est préoccupante concernant l'aide humanitaire sur la bande de Gaza, mais également ce conflit qui perdure, mais surtout l'ONU qui appelle, le secrétaire général qui appelle de tous ses voeux, vous savez quoi, à ce fameux cessez-le-feu, et puis permettre une trêve pour accéder, évidemment, pour permettre aux Gazaouis de retrouver l'électricité et puis de retrouver aussi cette fameuse aide humanitaire. Aujourd'hui, peut-on être, évidemment, la situation, certains disent qu'elle est complètement catastrophique. Qu'est-ce que vous dites, Rudy Kazi?
Je pense que c'est évident que la situation est catastrophique, oui, par rapport au nombre de bombardements, par rapport... au fait que le conflit perdure, par rapport aux centaines de milliers de déplacements à l'intérieur même de la bande, par rapport au nombre de morts d'enfants, de femmes, etc. Oui, le conflit s'est enlisé dans quelque chose de grave vis-à-vis des populations civiles. Donc moi, c'est sûr que ce qu'il faut, c'est un cessez-le-feu. De toute façon, on n'a pas cessé de le dire à chaque fois qu'on a eu l'occasion de le faire. Maintenant, je pense que la question, elle se pose différemment. C'est est-ce qu'on a les moyens et est-ce qu'on se donne les moyens de faire entendre à Netanyahou, Benjamin Netanyahou et à son gouvernement coalisé, parce qu'on parle surtout d'un gouvernement coalisé, puisque l'Union n'était pas si forte que ça avant d'entrer dans cette guerre contre le Hamas. Est-ce qu'on est en capacité de leur faire entendre raison? Et c'est là où moi j'ai des doutes, où j'ai des difficultés en fait à comprendre comment est-ce qu'on n'arrive pas en fait finalement à faire entendre raison à Benjamin Netanyahou.
Ah, c'est même maintenant que je pourrais vous expliquer pourquoi.
je sais pourquoi. Hein, je veux dire.
Non, mais effectivement.
On a tous une analyse de la situation.
Je me doute, mais comme
ou pas. Ce que je veux dire par là, parce que je n'arrive pas à comprendre.
Mais je sais très bien
c'est une position critique.
Je sais très bien que vous faites le candidat
dont je trouve
mais
que
c'est important de poser les mots si vous voulez.
Suffisamment j'entends. Loin et voilà, aujourd'hui on cherche des partenaires plus ou moins tendancieux, on va dire, pour essayer de faire sortir la tension de ce conflit. Genre. Que Netanyahou veut aller au bout de sa démarche contre le Hamas, moi je peux l'entendre évidemment. mais que voilà, que ce soit au prix de d'autant de vies, c'est ça qui est compliqué et qui n'est pas acceptable. Et d'autant plus que la situation s'enlise aussi parce que il faut discuter avec avec notamment les pays soit qui font partie des accords d'Abraham, soit des pays comme le Qatar par exemple, qui sont partie prenante de la discussion pour obtenir un cessez-le-feu et aussi de retrouver en fait les otages, dont je rappelle quand même 40, ouais. 40
Jérôme,
Français parmi les otages.
On fait un tour de table, parce qu'il faut qu'on avance aussi pour les
oui, mais non, mais
Jérôme, qu'est-ce que vous voulez dire, Jérôme?
On ne peut rien attendre de Benjamin Netanyahou, puisque Netanyahou, pour se maintenir au pouvoir et éviter d'aller en prison,
il est fragilisé,
a fait attention. Alliance avec l'extrême droite. Il est allié dans son gouvernement. Il y a des gens qui appartiennent à un parti qui s'appelle Force Juive et qui est un parti suprémaciste blanc. Il y a un de ses ministres, monsieur Eliaou, j'ai oublié son prénom.
Ça veut rien dire par rapport à la résolution du conflit, ça veut rien dire en fait. Là, c'est, si, c'est le poids des États.
Ça veut complètement dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il a joué. Laissez-moi développer l'argument.
Soyons clairs, il ne veut pas la fin du conflit.
Il a joué la survie.
Il a joué la survie. Il ne veut pas. Il ne veut pas. On ne peut pas ne pas être obligé à le faire.
Parce que du coup, laissez-moi développer mon argument. Vous ne voyez pas le rapport. En fait, vous ne voyez pas le rapport.
Il s'est allié avec ces gens. C'est lui qui me coupait.
Mais c'est pas grave, c'est le frère.
Pas mieux.
Franchement, ah bon, quand c'est les autres, c'est pas grave.
Ah non,
c'est
grave. Tu
fais
bien.
Tu
viens. Tu viens. Redis. Okay, okay. Vous avez été jusqu'au bout de vos propos. On peut, s'il souhaite à un moment donné ou l'un ou l'autre, etc. Voilà, intervenir dans vos propos.
Je n'en ai pas discuté.
On n'est pas en conférence ici. C'est un débat et le débat peut être interrompu.
Dans ce cas,
il
faut
façon...
me laisser le couper.
Allez-y, Jérôme. De toute façon,
j'ai même pas le temps
de toute façon, j'ai envie de vous dire.
Moi, je te coupe jamais. Tu passes
de toute façon, j'ai envie de vous dire, je suis là pour ça.
Je me laisse couper.
Je suis là pour ça.
C'est vrai.
Allez-y.
Parce que comment voulez-vous qu'un parti qui est suprémaciste juif soit dans la retenue? Comment voulez-vous, je vous dis, il y a un ministre qui a tweeté jamais le Gaza Nord n'a été aussi beau. C'est le même qui a répondu dans une interview qu'une frappe nucléaire tactique sur Gaza, en plus il est débile mental, hein, était une option. Donc comment vous voulez que ces gens-là puissent être dans la retenue, dans la retenue, lorsque vous faites alliance avec l'extrême droite
à l'intérieur du pays pour parler à un électorat? Et la réalité
du conflit
qui peut s'enliser, elle n'est pas la même.
Moi,
ce que je dis, c'est qu'en fait, il y a suffisamment d'acteurs aux alentours qui peuvent empêcher Benjamin Netanyahou d'aller au bout de cette logique mortifère, en tout cas au regard des victimes gazaouis. Et malheureusement, pour le moment, on les entend peu. Maintenant, le discours qu'ils ont, il est outrancier, évidemment. Le discours
de
Netanyahou est outrancier. Mais attention, c'est aussi une stratégie électorale.
Abdeslam Itach et Sabrina Lori.
Je suis outré de tes propos. Je suis outré de tes propos.
Pourquoi?
Qu'un ministre se mette à dire que les Palestiniens sont des animaux, que l'option bombe atomique, il faut peut-être l'envisager, dire qu'il s'adresse à son électorat est juste scandaleux. Oui. Il s'adresse au monde en parlant ainsi et il attise la haine. Et comment voulez-vous qu'à un moment on puisse trouver une solution diplomatique à un problème, problème politique?
Moi je dis pas que la solution elle va être facile
à
trouver.
Non, mais parce que je t'entends minorer les propos de ces ministres-là.
Je les ai pas minorés, c'est ton interprétation. J'ai dit à l'instant que c'était des propos graves. Et c'est
oui,
pas la première
oui, mais
fois
tu
que
as dit qu'il s'adresse à son électorat.
Avec
non,
Sabrina,
non, quand il tient ces propos-là, il s'adresse au monde. Il s'adresse au monde.
La dernière
quand
fois,
il dit,
avec
quand
Sabrina,
ils disent,
on
quand ils disent,
comme ça,
quand ils
disent,
bah, moi je t'ai pas coupé.
Mais c'est son problème.
Moi je t'ai pas coupé.
S'il vous plaît,
non,
je t'ai pas coupé.
Moi j'ai déjà dit,
moi j'ai été au bout du
problème. Mais je veux pas qu'on me raconte des bêtises.
Non, je ne t'ai pas coupé.
Moi j'ai dit ce que j'ai dit. Non, non, à un moment donné, ça suffit.
Je vais aller au bout.
Moi j'ai dit que les propos sont graves, mais c'est ton problème. Moi j'ai dit que
au bout de mon propos.
Mais j'ai dit aussi que de l'autre côté en Israël, c'est aussi une façon de parler à son électorat. Donc tu racontes des bêtises. Tu dis que tu es scandalisé. Arrête ton cinéma.
En Palestine, 70% de femmes et d'enfants étaient là à commenter des propos.
Et donc j'ai dit que c'était bien.
Non.
J'ai
en train de dire que ça s'adresse. Oui, mais
il
s'adresse à leur
électorat.
Non, il s'adresse au monde. Et ils attisent la haine. On est au bord de la Troisième Guerre mondiale. D'accord. On est au bord de la
troisième guerre mondiale et on a des fous furieux qui sont à la tête.
C'est pour ça
qu'ils sont à la tête
aux alentours
d'Israël.
Doivent aussi.
D'accord.
Mais tu ne peux pas.
Non, mais c'est indigne de ta part de minorer leurs propos.
Mais tu fais du cinéma.
Moi,
j'ai jamais. Non, attends, j'y réponds. Moi, j'ai jamais minoré les propos, que ce soit ici.
T'es en train de dire oui, mais ça s'adresse à leur électorat. C'est scandaleux.
Mais c'est pas minoré. J'aurais minoré les propos si j'avais dit c'est pas si grave.
C'est son point de vue.
J'aurais...
Son point de vue.
Non, oui, j'aurais...
c'est
scandaleux. J'aurais minoré. Adil, faut être sérieux à un moment donné. J'aurais minoré les propos si j'avais dit c'est pas si grave.
Non,
j'ai pas dit que
à...
c'était pas
oui,
si grave.
S'adresse à
j'ai dit
électorat.
Ici que c'était grave ces propos. J'ai dit que c'était du racisme. La dernière fois, on était avec Jimmy Dalidou ici. On a dit que c'était des propos qui étaient graves, qui étaient racistes, etc. En quoi je minore les propos? Toi, tu sors de nulle part et tu dis que je minore les propos.
Non, mais d'accord.
Arrêtez le cinéma. Okay. D'Islam, à un moment donné.
Alors, ok.
Bah, attends, c'est
mais
quoi,
vous avez quand même dit, il parle à son électorat. Je veux
mais,
juste donner
oui,
le chiffre.
Mais c'est vrai.
Je veux juste donner le chiffre.
Non, ce que j'ai dit précisément. Non,
est-ce que je peux donner
le
chiffre?
Ce que j'ai dit, ok, d'accord. Ce que j'ai dit précisément, c'est que les propos sont graves. Mais j'ai dit aussi qu'il faut pas oublier qu'il parle à un électorat pour trouver un assentiment, pour soutenir, pour qu'il puisse soutenir.
80% des Israéliens pensent que Netanyahou a une part de responsabilité dans les attaques du Hamas.
Mais moi, je suis
27% des Israéliens souhaitent qu'il se maintienne au pouvoir.
Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord dans la mesure où je sais très bien.
Je dois dire, je vais vous dire, je vais même vous apporter l'information que vous connaissez peut-être.
Hamas sert les intérêts de Netanyahou.
J'apporte juste un peu de. Je fais un peu de.
Évidemment.
On va. Attendez. On va reprendre le débat. Je tiens à vous dire, je vous apporte peut-être qu'une information que vous connaissez certainement. C'est que sachez une chose, c'est que Benjamin Netanyahou en ce moment est très fragilisé, en ce moment même, parce qu'il y a les élections prochaines, etc., et qu'il est en train de les préparer, qu'il est en train de dealer les tractations entre les uns et les autres, mais surtout, je vous le confirme, qu'il est très fragilisé.
Mais c'est pour ça qu'il est dans ces discours
Sabrina
outranciers.
Moi, Sabrina,
moi effectivement, je ne suis pas d'accord avec Rudy, il ne parle pas à un électorat, il parle au monde, et je crois qu'il est...
Il parle aussi à son électorat, il y a les élections qui arrivent bientôt.
Est-ce que je peux finir? Donc on est bien au-delà. Maintenant, on a passé une étape, on a passé même plusieurs étapes dans la séquence qui nous dit qu'il ne parle plus à son électorat, mais bien au monde. Il s'adresse au monde. C'est un premier point. Deuxième point, je rejoins notre ami journaliste qui dit que effectivement, ce qui s'est passé le 7 octobre et pardon, c'est les historiens qui bien sûr nous diront l'histoire et feront les enquêtes et nous diront. Mais aujourd'hui, Netanyahou a faibli dans la politique sécuritaire d'Israël, parce que aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est que l'État d'Israël soit en sécurité, c'est que le peuple israélien puisse vivre en sécurité, tout comme le peuple palestinien doit vivre en sécurité.
Alors, vous savez quoi, je vais prendre quelques auditeurs, parce ils sont beaucoup
je le dis,
à nous appeler.
Il a fauté, en fait, il a fauté s'il y a eu toutes ces attaques.
Alors, auditeurs.
Oui, exactement. Ouais. Ils vont trancher. Vous savez quoi, quand mon soleil me demande de faire la pause, il y a juste Mourad, je vais l'accueillir et je vais lui demander de patienter. Bonjour Mourad, bonsoir.
Oui, bonsoir tout le monde.
Vous nous appelez de quelle ville, Mourad ?
De Saint-Denis.
Saint-Denis, bougez pas, Mourad, c'est quoi ? Je marque une courte pause et on se retrouve, vous allez nous dire ce que vous pensez de cette ambiance-là. C'est chaud, hein ? On est d'accord. Eh bien, restez avec nous, ne bougez pas. Après, j'ai Fatima aussi qui nous appelle du 94. J'aimerais les entendre, les auditeurs.
Bien sûr, c'est important.
Et puis, je voudrais qu'on parle aussi de cette marche contre l'antisémitisme, parce que ça aussi, c'est un sujet. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Chaud devant, chaud ce soir, les informés, 19h40. Bienvenue à vous tous avec Rudy Kazi, Jérôme Bonnet, Sabrina Nouri et enfin Abdes Lamitash. On va retrouver notre ami auditeur qui nous appelle de Saint-Denis en direct. Rebonsoir.
Bonsoir, merci de me donner la parole.
Mais allez-y, je vous en prie, on vous écoute.
Ben moi, le commentaire que je voulais faire par rapport à la situation, c'est que en vérité, je suis très gêné. Pourquoi ? Parce qu'on a un conflit à l'intérieur duquel on a une crise. Vous m'entendez ?
Oui, très bien.
Donc on a un conflit, historique à l'intérieur duquel nous avons une crise qui vient de se déclencher il y a un mois. Et maintenant, la communauté internationale, au niveau de toutes les régions du monde, tout le monde est en train de s'agiter, de faire de l'effervescence pour que cette crise cesse. C'est très bien. Mais que la crise cesse, c'est une chose. Que demain le Hamas arrête d'envoyer des roquettes, que les otages soient libérés, que l'armée israélienne cesse ses bombardements et ses incursions dans la bande de Gaza. Très bien, on espère tous que ceci arrive très vite. Mais cette chose-là, quand elle va arriver, le conflit n'est pas réglé. le conflit n'est pas réglé. Nous n'avons toujours pas de gauche israélienne comme interlocuteur fiable avec qui parler. Nous n'avons pas le Fatah, qui est la branche politique historique de l'OLP, avec qui on va pouvoir aussi avoir un interlocuteur fiable. Nous n'avons pas de volonté politique dans le monde arabe et aussi dans le monde occidental de faire en sorte que on trouve un terrain d'entente. Et on sait aussi beaucoup que dans ce conflit, il y a de l'argent. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent de ce conflit et qui ont un intérêt à ce que celui-ci perdure. Alors que la vérité, c'est que 1500 milliards de points de PIB dans la région par an apporteraient la paix. Enfin, la paix apporterait 1500 milliards de points de PIB par an dans la région. Donc, au bout d'un moment, les ingrédients ne sont pas réunis. Moi, vous savez, j'ai 46 ans. Je me souviens, ce septembre 93, Bill Clinton, avec Rabin et Yasser Arafat, se serrer la main. C'était un très grand espoir.
On s'en rappelle tous, effectivement.
C'était un très grand espoir. Et ce que je veux dire par là, c'est que les interlocuteurs étaient présents. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Vous croyez vraiment que c'est avec Benjamin Netanyahou et le Hamas qu'on va faire un accord de paix avec Israël et la Palestine? J'en doute fort.
Eh ben merci pour ce point de vue, Morad. Vous avez raison de nous appeler. Voilà, exactement. Merci, Morad.
Je vous en prie, au revoir.
Et vous revenez quand vous voulez. Vous savez quoi? Il faut qu'on avance et il faut surtout qu'on passe à ce sujet qui concerne, vous savez quoi, ce dimanche. La marche contre l'antisémitisme, c'est incarné par deux personnalités, celui du président du Sénat et celui de la présidente de l'Assemblée nationale, qui ont proposé de façon ensemble, d'ailleurs, de converger vers cette marche. Y aura-t-il du monde? C'est la question que se pose beaucoup. Mais sauf qu'il y a deux mouvements, deux doctrines qui ne sont pas les bienvenues. Je vous le donne en mille ou pas? Le Rassemblement national et LFI. Vous êtes déçus? Sabrina Nouri. Et les filles?
Pourquoi je serais déçu? Pourquoi je serais déçu?
Bah, Olivier Véran, il a dit clairement, les deux mouvements politiques, on n'en veut pas.
Il a dit ça?
Ah bah
ça fait un bout de temps qu'il joue à cette majorité, elle joue à ça tout le temps. Hein.
Non, mais
les extrêmes.
Moi, en tout cas, je me positionne au niveau de notre association, et notre association est claire. C'est pour nous, c'est très clair. On ne marchera jamais aux côtés du Front National, du Rassemblement National, appelez-le comme vous voulez. Pour nous, c'est un parti qui a été fondé par des membres SS.
Sauf que là, la marche contre l'antisémitisme.
Je dis que le Front National, le Rassemblement National, est le parti des antisémites de France depuis des décennies. Pourquoi aujourd'hui ils sont en train de surfer sur cette vague pour justement alimenter.
Mais c'est pas eux qui proposent la marche.
C'est pour alimenter. En tout cas, ils n'ont pas été éjectés par Yaël Braun-Pivet et Monsieur Larcher, qui sont initiateurs.
Ah si, Olivier Véran, il était très clair.
Olivier Véran n'est pas Yaël Braun-Pivet, et ce n'est pas Monsieur Larcher pour le moment.
En tout cas, cette grande marche,
ils ont répondu présent. Ils ont répondu présent dimanche. Donc moi, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais moi, je sais qu'il y aura le Rassemblement National dimanche.
En tout cas,
et pour moi, il est hors de question qu'on puisse lutter contre l'antisémitisme avec le Rassemblement National. Ça n'a pas de sens, en fait.
Elisabeth Borne sera là, la première ministre, le Parti Socialiste, le RN, pas LFI, pas le RN. C'est ce qui se dit,
alors,
en tout cas.
La France Insoumise a répondu que ils ça sera non.
Et Jean-Luc Mélenchon.
Voilà, je pense que les propos ont été clairs. Il y a un communiqué de presse qui a été formulé. Les propos sont clairs, les explications sont claires. Et je suis, en tant que sympathisante France Insoumise, je suis absolument d'accord. Et j'aurais été extrêmement déçue. Et j'aurais été extrêmement déçue qu'ils y aillent. Donc, moi, je suis dès le départ en accord avec les idées et les propos qui sont tenus par rapport déjà au conflit et par rapport à ce qui va se passer dimanche.
Alors, Gérard Larcher et la présidente de l'Assemblée nationale, Yannick Braun-Pivet, disent à tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de notre République, viennent marcher. Et en gros, Pascal Pro, il dit, comme ça, ça vous permettra de savoir qui joue pour qui.
C'est ça.
Qui roule pour qui, pardon.
Alors d'abord, juste sur le terme même de sémite ou antisémite, c'est le peuple de Sem, c'est le fils de Noé.
Quelle sémantique. Qui est
descendant d'Abraham, qui a eu deux enfants, Ismaël et Israël. Donc, je suis sémite.
Allez-y, Abdeslam Itaj, répondez.
Et donc, de fait, contre l'antisémitisme. ce que je veux juste dire, aujourd'hui, on nous a préempté cette chose-là. Et d'ailleurs, on ne peut pas être sémite et antisémite, je tenais juste à le dire. Et évidemment, toute ma vie, je me suis battu contre toutes les formes de racisme. Toutes, sans aucune distinction, y compris l'antisémitisme. Aujourd'hui, on nous enjoint de choisir entre la manifestation pour la paix et la manifestation contre l'antisémitisme. Ce que je veux juste dire,
de l'analyse de la sémantique.
Mais oui, mais c'est juste dégueulasse. C'est
je vous demande de répondre à la question.
Alors, moi, je vais vous répondre.
Quel est l'objectif de cette marche? Est-ce que l'objectif de cette marche, c'est poursuivre le soutien inconditionnel au gouvernement israélien? Bien, moi, je dis
l'objectif
non.
L'objectif est clair. Hein.
Non mais
l'objectif est clair, c'est le fonctionnement il est pas très clair.
Non, j'ai été coupé, mais je veux bien finir.
Allez-y, je t'en prie.
Juste une chose.
Allez vite parce que on a le quad neuf qui nous attend.
Mais ça attendra.
Il est 46.
Juste une chose, aujourd'hui on nous injonge de choisir entre les deux. Moi je refuse de choisir entre les deux. Je suis pour la paix et je suis contre l'antisémitisme. Voilà. Mais moi, ce qui me gêne, c'est en effet la présence du Front National que j'ai combattu toute ma vie et toute ma jeunesse. Hors de question de marcher à côté d'un mouvement qui a fait des jeux de mots, du rafour crématoire, en disant que l'Holocauste c'était un point de détail dans l'humanité.
Jean-Marie Le Pen a été condamné 5 fois, enfin, à un moment donné.
Et très récemment, Jordan Bardella a dit qu'il
vous
croyait pas qu'il
soit. Et vous voudriez que j'aille dans une manifestation bras dessus avec Marine Le Pen? Non, mais vous rêvez.
On est en train de dérouler le tapis rouge au Rassemblement National pour que demain, ça se normalise. Parce que je ne suis pas d'accord.
Rudy.
Franchement, vous êtes trop gentil.
Rudy, allez-y, ensuite Jérôme Bonnet.
Non, mais de toute façon, il a été dit que le Front National n'est pas autorisé à participer à cette marche. Organisée.
Si. Il y va.
En tout cas, il a été dit que le Front National n'est pas autorisé à y aller. Tandis que vous et les filles, vous avez choisi de ne pas y aller. Et vous n'y allez pas parce que le Front National n'y sera pas, vous n'y allez pas parce que vous avez. Et les filles a toujours une position un peu tendancieuse sur le sujet. Et là, en l'occurrence, en tant qu'élu, on peut y aller. Là, il s'agit en fait d'y aller en tant qu'élu, en tant que citoyen français, pour dire non à l'antisémitisme. Je rappelle qu'il y a eu plus de 1000 actes antisémites cette année, et c'est deux fois plus que l'année dernière. Donc on sent qu'il y a une augmentation. Donc là, en fait, on va manifester pour dire non à l'antisémitisme. Je vois pas où est le problème, en fait. Donc et le reste, c'est des postures politiques, une fois. Et de la sémantique, comme vous disiez tout à l'heure.
Est-ce qu'on parle sur un plan international, ou est-ce qu'on parle de la France? Si on parle de la France...
On parle de la France.
Voilà. Dans ce cas... Effectivement, bien sûr, l'antisémitisme est un cancer, il convient de le combattre, et on ne peut pas déplorer qu'on marche contre l'antisémitisme. Dans le climat actuel, au demeurant, et vu ce que j'avais dit précédemment sur la France, donc, à mon avis, il aurait été assez avisé de faire une marche contre l'antisémitisme et l'islamophobie. Ça aurait été absolument magnifique qu'on ait des gens partout dans les rues pour dire... Nous ne voulons pas de l'antisémitisme et nous ne voulons pas de l'islamophobie. Pourquoi ce côté toujours hémiplégique? C'est ça qui me gêne, en fait.
Justement, ça tombe bien. Vous savez quoi, Jérôme Bonnet? Vous me permettez une belle transition puisqu'on va accueillir le Quoi de Neuf. C'est parti.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Et le Quoi de Neuf, c'est avec le grand docteur et le professeur Majid. C'est aussi le bonjour.
Bonjour Adil.
Merci d'être avec nous. Comme chaque mercredi, c'est votre billet d'humeur, c'est votre moment à vous et vous avez décidé, comme à chaque mercredi, de nous consacrer une actualité autour de l'antisémitisme. Anne Hidalgo, chacun y prend pour son grade, l'écologie. Bref, je vous donne la parole à vous.
Eh bien écoutez mon cher Adil, ce jour en plein échauffement mondial s'ouvre à Paris le One Polar Summit sur la fonte des glaces et de la banquise. Il faut dire qu'avec toutes ces bombes qui explosent partout dans le monde, ces haines qui s'expriment au plus fort, il y a de quoi réchauffer le climat. Comme cela ne suffisait pas, notre chère Anne Hidalgo, qui veut nous contraindre à la marche à pied, ce qui est une bonne chose, au vélo, ce qui peut être mortel à Paris, notre chère première édile de Paris, qui nous donne sans cesse des leçons sur la pollution, notre empreinte carbone, cette sainte, que dis-je, cette madone de la cause environnementale, s'est offert un voyage digne d'un rugbyman préparant la Coupe du Monde, une tournée en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous couvert d'une visite officielle avec un petit passage par Auckland.
Clochette, il a droit à une clochette.
Elle est restée à 16 732 km de sa ville pendant près d'un mois. On ne pourra pas lui enlever une qualité, la discrétion. Un type comme vous, Adil, il aurait posté des photos sur tous les réseaux sociaux, des images de son voyage.
C'est trop facile.
Il me connaît.
Oui, allez-y.
Et elle, Elle, en tout cas, rien du tout. Ah si, pardon. Une image d'elle faisant du vélo sur les quais de Seine, alors qu'en fait, elle était à Nouméa. Une vraie sainte, cette femme. Une vraie sainte. Sachant que c'est la crise, que les sanctions sont dures, même pour les bourgeois comme moi, elle est restée muette sur ses 15 jours de vacances en Polynésie qu'elle a passé avec sa fille qui y est installée. Coût de l'affaire, près de 60 000 euros. On verra qui paiera. Sans doute l'augmentation de la taxe foncière. Et dire que pendant ce temps-là, on cherche des ponts à notre cher Sarkozy pour l'affaire Big Malion, Julien en appelle un garçon si honnête. Et dire que pendant ce temps, notre garde des Sceaux, lui, continue d'être ministre alors qu'il est sur le banc des accusés. Probablement pour des raisons discutables, mais ça fait quand même désordre, même si on aime bien le personnage. Mais ne soyons pas inquiets, Elisabeth Borne, dont on dit que les jours sont comptés, lui garde toute sa confiance. Ce qui risque de ne pas arranger l'empreinte carbone, c'est aussi sans doute la loi de Darmanin sur l'immigration. Rendez-vous compte, mon cher Adil, tout ce qu'il va falloir comme avion pour expulser tous ces obligés de quitter le territoire français.
Oui.
Monsieur le ministre, je vous en prie, j'ai bien peur que l'écologie nous impose de les garder. J'ai été choqué, comme beaucoup, à l'annonce des tags qui recouvrent parfois certaines demeures de nos compatriotes juifs, et je trouve ça assez répugnant. Mais j'ai tout de même été bien amusé de voir que ce sacré Poutine avait payé de pauvres Moldaves sans papier pour qu'ils peignent au pochoir des étoiles de David. Il est vraiment extraordinaire et ne rate absolument rien. Et lui, en tout cas, se réjouit de la banquise qu'ils font et qui va lui ouvrir de nouvelles voies de navigation. Le malheur des uns fait le bonheur des autres.
C'est infiniment, mon cher docteur. Bravo à vous, comme chaque mercredi, pour ce billet d'humeur. Vous nous plongez dans cette actualité. Merci, à mercredi prochain, le professeur Majid Seyoussin, docteur.
Avec joie.
Partagez, mon cher docteur. Allez, au plaisir, prenez soin de vous. Qu'est-ce que vous faites, Sabrina?
Ben, rien.
Vous êtes pressée de partir, ben, c'est
tout.
Ça
non, non, non,
ça va,
non,
on vous dérange, ça va, non? Tout va bien? Elle s'est levée, elle s'est habillée, elle se barre, j'aime bien. Ça va, allez-y, je vous en prie, ma chère Sabrina.
Elle a apprécié l'émission.
Ouais, elle a apprécié, je vous
non,
en prie,
non, mais,
ma chère Sabrina.
Mais vous savez que je suis maman et que les enfants m'attendent, donc voilà. Nous...
Qu'est-ce que vous dites aux auditeurs, d'une phrase?
On lâche rien.
Abdeslam.
Absolument.
Redi Kazi.
La paix, toujours la paix.
Je voulais juste citer Ayo Meyer, qui est un physicien, qui était un physicien juif allemand, qui a dit un truc que j'aime beaucoup et qui malheureusement était en train de se réaliser sous nos yeux. Il disait, je le traduis de l'anglais directement, il disait, jusqu'ici, un antisémite était quelqu'un qui détestait les juifs parce qu'ils étaient juifs et parce qu'ils avaient une âme juive. Aujourd'hui, il semblerait que les antisémites soient surtout les gens que les juifs détestent.
Pas mal. Solal, merci. À demain avec autant de plaisir. On ne lâche rien. Bill Anedman, ensuite Vanessa, ensuite Kim demain. Bref, Beurre FM, le rendez-vous à ne pas manquer. On ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.